20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Il a fêté aujourd'hui ses 85 ans, mais reste toujours actif et déborde de projets. Jean-Claude Casadesus sera notre invité ce soir. Il nous fera partager sa passion pour l'orchestre, pour la musique de Mahler, dont il vient de nous offrir un enregistrement du Chant de la Terre, mais aussi pour la transmission, lui qui dirigera à la rentrée un orchestre de jeunes. Avant cela, comme chaque soir, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Se tiendra demain à Stockholm le traditionnel concert des prix Nobel, concert qui cette année, Covid oblige, sera donné sans public mais retransmis en direct sur la chaîne YouTube du prix Nobel et sur nobelprize.org. C'est le chef d'orchestre français Stéphane Denève qui dirigera à cette occasion l'Orchestre Philharmonique de Stockholm, avec en soliste le pianiste Igor Levit. Au programme, des pages de Guillaume Connaisson, de la jeune compositrice suédoise Andrea Tarodi, de Stravinsky, l'Oiseau de Feu, mais aussi le 5e concerto, l'Empereur de Beethoven. Beethoven dont Igor Levit nous a offert une formidable intégrale des sonates, récompensée en 2019 par un trophée de l'année de Radio Classique. L'Orchestre National d'Île-de-France retrouvera son directeur musical, le chef américain Case Scallion, le 10 décembre, donc jeudi, à la Philharmonie de Paris, pour un concert à huis clos, mais diffusé en direct et en streaming. Ce concert s'inscrit dans le cadre de L'Amour de Loin, premier festival en ligne des orchestres et des opéras de France, organisé par les Forces Musicales, et sera retransmis sur les plateformes vidéo de l'ONDIF et de la Philharmonie de Paris. Case Scallion dirigera des pages de Debussy, Strauss, Enesco et Rachmaninoff, les variations sur un thème de Paganini de Rachmaninoff, avec en soliste la pianiste Marie-Ange Gucci. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Pour pallier l'annulation de la production de Fantasio d'Offenbach, l'Opéra Comique a imaginé un festival qui se tiendra du 16 au 19 décembre, Salle Favart. Chantons, faisons tapage, ainsi s'intitule cette manifestation qui sera donc ouverte au public dans le respect des règles sanitaires. À l'affiche, 4 concerts au programme léger et festif avec la troupe de chanteurs et de chanteuses de Fantasio, la maîtrise populaire de l'Opéra Comique, le Chœur à Edesse, l'Orchestre de Chambre de Paris, Laurent Campelonne et Thomas Joly. 4 concerts et une masterclass exceptionnelle de Barbara Hannigan avec des élèves du CNSM de Paris. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'Opéra Comique.
Laure Maison sur Radio Classique.
C'est donc avec Jean-Claude Casadesus que nous allons passer un moment ce soir. Jean-Claude Casadesus qui a célébré aujourd'hui son 85e anniversaire et loin de lui l'idée de ralentir son activité, car la passion et l'énergie sont toujours aussi intactes. Alors, comment un musicien aussi hyperactif que lui depuis plus de 60 ans de carrière a-t-il vécu ces confinements, cet arrêt de la vie musicale? C'est la première question que je lui ai posée lors de notre rencontre chez lui, dans son appartement au pied de la butte Montmartre, où il ne cesse de travailler, comme en témoigne la partition du prélude à l'après-midi d'un faune, posée sur son bureau, ce prélude à l'après-midi d'un faune qu'il dirigera en concert à la rentrée.
Mais écoutez, quand tout s'arrête, que vous avez moins d'objectifs, pour pas dire plus du tout, pendant des mois, un certain nombre d'interrogations qui se posent. Et puis, c'est vrai que c'est comme les champions. Vous savez, les champions s'entraînent pour devenir un grand joueur de tennis, un grand skieur. Et un musicien, il s'entraîne aussi. C'est pareil, nous sommes dans un autre genre, confrontés à des championnats. Et en même temps, il y a une espèce de rideau qui tombe et qui vous plonge dans une espèce d'abîme de flemme. Voilà. Alors, il faut se réveiller. Je suis en train de me réveiller en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques mois un tout petit peu pénibles. J'ai un grand balcon, ce qui m'a permis de faire du jogging sur mon balcon. J'ai entretenu au moins une partie de mon corps, à défaut du cerveau.
Alors, vous fêtez vos 85 ans, vous semblez...
C'est vrai ? Ah mais non, mais je le crois pas.
Mais nous non plus.
Maman écrivait, ma chère petite maman écrit un livre. 100 ans s'est passé si vite et je peux vous dire que 85 ans, j'ai le sentiment que c'est passé à la vitesse de l'éclair. Depuis que j'ai pris conscience de la nécessité de la progression grâce au travail, je n'ai jamais arrêté de travailler. Donc le temps est passé à une vitesse faramineuse. J'y crois à peine.
Et on a l'impression, Jean-Claude Casadesus, que votre appétit musical, vos désirs de scène, de musique, de public, votre passion se renouvelle sans cesse. Vous avez toujours cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant.
Oui, enfin, de l'appétence et du désir, je crois que ce sont les mamelles de la survie. Finalement, c'est très important d'essayer de continuer à... à nourrir sa créativité si on en a une. Je me rassasie, c'est-à-dire quelques jours, quoi, je veux dire. Mais c'est vrai que j'aime bien transmettre, j'aime bien partager. Je me suis beaucoup posé la question, quelle est la place, la nécessité, la fonction d'un artiste dans notre société aujourd'hui? Je suis convaincu qu'elle passe par le partage, par le partage de nos émotions, la transmission à des jeunes. Et voilà, du moment qu'en plus que la machine fonctionne, c'est-à-dire que la mécanique tourne toujours, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Le mot retraite n'est pas dans mon logiciel, si c'est ça que vous voulez que je vous dise.
Von den Jugend, de la jeunesse, un extrait du Chant de la Terre de Gustav Mahler, dirigé par Jean-Claude Casadesus, avec ici le ténor Clifton Forbis et l'Orchestre National de Lille, capté en concert en juin 2008 à la Basilique de Saint-Denis, dans le cadre du Festival de Saint-Denis, un enregistrement qui vient enfin de faire l'objet d'une publication sous le label Évidence. Une œuvre, le Chant de la Terre, particulièrement cher au cœur de Jean-Claude Casadesus.
Je m'étais beaucoup investi dans l'étude de cette œuvre, qui est le chef-d'œuvre de Mahler. Vous savez qu'il ne l'a jamais entendu de son vivant, que c'est Bruno Walter qui l'a créé juste après sa mort, après la mort de Mahler, et qu'en même temps, c'est une réflexion sur des poèmes chinois du 8e siècle, dont la modernité stupéfie. Et c'est une grande réflexion sur la condition humaine, sur la mort, et puis en même temps sur la jeunesse, sur l'ivresse qui fait oublier les vicissitudes du quotidien. C'est au fond l'exégèse de l'éphémère, c'est-à-dire la vacuité de la vie quelquefois, de son aboutissement, avec une conclusion extraordinaire qui est l'abside, qui dure plus de 25 minutes, et qui est vraiment, avec des moyens extrêmement réduits, une formidable démonstration de suggestion de l'éternité. Oui, je ne peux pas trouver d'autres mots pour vous décrire voilà, cette transcendance musicale qui impose effectivement une immersion dans la pensée de Mahler, qui, je le rappelle souvent, est pour moi, en musique, ce que Stefan Zweig est en littérature, avec un regard nostalgique vers un passé qui aurait été heureux, et la description de grandes conflagrations qui ont nourri le XXe siècle.
Alors c'est vrai qu'on sait que Mahler est l'un de vos grands compagnons, Jean-Claude Casatu. Vous nous offrez aujourd'hui cet enregistrement du Chant de la Terre. Il y a eu, il y a peu, cette deuxième symphonie, Symphonie Résurrection. Mahler, un compositeur que vous fréquentez depuis des années, depuis des décennies. Comment évolue votre approche de la musique de Mahler ?
Écoutez, d'abord, elle est très liée à mon amour pour la musique française. Parce que Mahler était un immense orchestrateur, Ravel un immense orchestrateur. Mahler, c'est le compositeur de l'affect. C'est quelqu'un qui nous raconte ses états d'âme, qui raconte la métaphysique de l'existence, l'au-delà du réel, ses propres angoisses. Qu'est-ce que c'est que la musique en général ? La musique, c'est la traduction la plus poétique de la vie, la plus charnelle en ce qui concerne Mahler, qui a été décrite d'une façon extraordinaire par nos musiciens français, dont, je dirais, l'ADN était la clarté, la luminosité, le rythme, rien de trop et un grand équilibre. Et on retrouve dans l'écriture de Mahler, et notamment dans le Chant de la Terre, une formidable proximité, je trouve, avec le style, dans certains cas, de la musique française. Et surtout, je voulais, avec mon orchestre, prouver que si nous sommes aptes, et Dieu sait si elle est difficile, à bien faire la musique française, je voulais qu'on comprenne que nous étions capables de pénétrer un domaine que souvent on dénie aux musiciens français, c'est-à-dire d'aborder le très grand répertoire. Et ça, c'était surtout valable il y a 40 ans. Ça l'est moins maintenant parce que tout est beaucoup plus cosmopolite. Mais je voulais imposer un son. Il faut avoir une pensée du son pour pénétrer les grandes œuvres de Mahler, de Wagner, de Tchaïkovski, aussi de Prokofiev, qui lui est très très proche de la France dans son style. Pour moi, cette connivence entre les deux styles de la grande littérature de la Mittelleuropa et du raffinement, je dirais, de l'élégance et de l'exigence de la musique française sont complémentaires. Donc je ne peux pas dissocier mon amour pour Mahler de ma vénération pour la musique française.
Quelques notes du troisième mouvement de la deuxième symphonie, la symphonie Résurrection de Gustav Mahler, dans l'enregistrement de Jean-Claude Casadesus avec l'Orchestre National de Lille. Un enregistrement de concert donné en novembre 2015, au lendemain des attentats du Bataclan, concert particulièrement chargé en émotions. L'Orchestre National de Lille, Jean-Claude Casadesus, on a donc confié les rênes il y a 4 ans à Alexandre Bloch, mais en reste le chef fondateur. Il garde ainsi des liens très forts avec ses musiciens.
Mais écoutez, j'ai l'impression d'un renouveau de relation avec une fidélité et une gentillesse qui se démontrent plus, si j'ose dire, de la part des musiciens que j'ai quittés avec un peu de nostalgie. C'est une décision qui m'appartenait. J'ai décidé qu'à 80 ans, je pensais qu'il était temps de proposer du sang neuf, mais je ne voulais en aucun cas rompre le lien qui m'unit avec cette maison, cette région. Cette région, vous savez, le Nord-Pas-de-Calais qui, maintenant avec la Picardie, enfin les Hauts-de-France comprennent 6 millions d'habitants, ils m'ont donné des témoignages extraordinaires d'affection après que je me sois totalement engagé pour eux. Je le dis avec une espèce d'émotion, j'ai 4 salles à mon nom dans le Nord-Pas-de-Calais, 2 auditoriums, un conservatoire et une école maternelle. Pour moi, ce sont les plus belles décorations. Et quand je retrouve mes musiciens qui savent, je crois, ce que ma responsabilité leur a permis d'acquérir, c'est-à-dire une très belle maison, une très très belle salle pour laquelle je me suis battu, comme vous le savez, pendant des années, un public construit, une politique qui perdure, je crois, c'est-à-dire un très grand contact avec les auditeurs de la région des Hauts-de-France et les enfants, et également dans des lieux un peu de souffrance ou iconoclastes, plus les tournées internationales. Moi, j'ai visité 32 pays avec l'orchestre, 4 continents. Moi, personnellement, j'ai dirigé dans 45 pays. Mais je me dis que cette capacité que nous avons de transmettre une émotion, de ravir, si j'ose dire, un public, et de nous réaliser dans cette transmission, eh bien, en effet, je suis personnellement très heureux de l'avoir réalisé dans le Nord. Dans mon esprit, ça ne pouvait pas totalement s'interrompre. Donc, j'ai 2 séries par an, et encore un concert dans le festival que j'ai créé, qui est le festival de piano de Lille, et pour lequel j'ai demandé et obtenu d'avoir encore un concert chaque année.
Voilà, donc le prochain rendez-vous à Lille, ce sera les 20 et 21 avril à l'Auditorium du Nouveau Siècle. Vous évoquiez, vous avez souvent prononcé le mot de transmission, Jean-Claude Casadesus, vous parliez des jeunes tout à l'heure. Vous allez retrouver au mois de janvier de tout jeunes musiciens, les musiciens de l'Orchestre du Conservatoire de Paris que vous dirigerez le 18 janvier à la Philharmonie de Paris. C'est émouvant de diriger des tout jeunes musiciens, d'autant que l'on sait en ce moment à quel point ces jeunes musiciens souffrent, que leur carrière, leur début de carrière est tellement fragilisé par cette crise.
Ah, je me mets beaucoup à leur place. Je trouve que c'est en effet très angoissant quand vous débordez de projets et que tout d'un coup, en plein vol, vous êtes comme ça, flingué, quoi. Donc, il faut courber les chines, il faut se dire qu'il y a eu des grandes catastrophes dans le monde. Il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu la grande peste du Moyen-Âge, la grande peste d'Oran, la grippe espagnole, la guerre de 14, la guerre de 40, la Shoah. Et puis finalement, le corps et le cœur s'adaptent dans la mesure où on garde une part d'humanité. J'en profite pour dire que Malraux a dit « La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié ». Eh bien, j'espère qu'on va lutter pour ne pas oublier la culture qui m'a semblé parfois un tout petit peu délaissée dans l'esprit de certains en ces temps de crise. La culture, c'est la liberté. La culture, c'est les choix. La culture, c'est un questionnement sur soi-même, une ouverture aux autres. Sans la culture, l'obscurantisme arrive. Et donc, les jeunes gens qui, eux, travaillent un instrument, qui sont dans une école merveilleuse qui est le Conservatoire supérieur de Paris, qui n'attendent qu'une seule chose au fond, au-delà de leur technique qui est excellente, c'est qu'on crée le lien, qu'on leur apprenne ce que c'est que de jouer ce qu'il y a entre les notes, de se transcender. Et je me mets à leur place, car j'ai éprouvé une sensation extraordinaire la première fois que j'ai fait de l'orchestre, le sentiment d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Je me souviens que mon premier concert, lorsque j'étais encore au conservatoire, J'avais été faire un concert au Triangle dans la 9e de Beethoven. Et je peux vous dire que de compter mes 374 mesures avant de faire ti-ding, boum, ti-ding, boum, ti-ding, boum, ging, ging, et je me dis, c'est formidable, la volupté du son que l'on produit. Moi, j'ai eu la chance d'être aussi dans l'orchestre pendant 10 ans. J'ai toujours éprouvé une grande joie à nourrir le son, à participer à cet édifice musical, et avec les jeunes qui sont absolument ouverts à tout ce que vous proposez. Je viens de faire un concert au mois de décembre dernier avec le festival de Novosibirsk qu'on a transposé à Lille, avec Vadim Repin, avec Angelitch, avec Sacha Kiniazev, et avec l'Orchestre des Jeunes d'Ekaterinbourg, l'Orchestre des Jeunes des Hauts-de-France, l'Orchestre des Jeunes de l'Île-de-France. Mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'ils ont éprouvé, ils me l'ont dit, et que moi j'ai éprouvé à leur transmettre un phrasé, une impétuosité musicale. Le seul moment où je suis pleinement heureux, c'est lorsque je peux édifier, bâtir un dessin musical sur la scène, en répétition, de créer cette communion artistique, créative, qui nous conduit à essayer d'être dignes des grands textes que l'on dirige. Alors ça, c'est pour moi une volupté extraordinaire. C'est une espèce de lévitation émotionnelle. Donc en effet, j'en ai besoin pour... c'est mon ADN.
La musique française, la musique de Debussy, dirigée par Jean-Claude Casadesus avec l'Orchestre National de Lille. C'était le début de fête. Alors, en plus de 60 ans de carrière, Jean-Claude Casadesus a joué avec les plus grands musiciens, a fait quasiment le tour du monde et a été le premier à donner des concerts dans des prisons pour le public empêché. Il s'est ainsi attaché à défendre, avec la musique, des idéaux, des valeurs de tolérance, comme il me l'a confié.
Vous savez, quand vous faites le tour du monde grâce à la musique, vous rencontrez d'autres cultures. Moi, j'ai été en Afrique. On a été le premier orchestre à aller en Afrique. Premier orchestre symphonique en 1985. C'est pas exactement la même approche qu'à Salzbourg, ou la même approche qu'à Carnegie Hall ou à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg. Mais on s'aperçoit que la musique est véritablement, c'est un lieu commun, mais il faut le redire, un langage totalement universel. Il n'y a pas la subversion des mots. Et c'est un lien formidable entre les hommes, mais ce lien-là aussi m'a permis de rencontrer des personnes emblématiques de notre planète, de rencontrer des très grands événements. Par exemple, j'ai été le premier, en 89, à franchir d'ouest en est le mur de Berlin qui se levait devant nous. J'ai été reçu par le pape en 81, Jean-Paul II, avec tout l'orchestre au Vatican. Et ensuite, j'ai joué aussi le Requiem de Verdi, dans un endroit où tout le monde se tapait dessus et se massacrait quelques années auparavant, au Liban, dans le Chouf, pour le festival de Nora Djoumbla. Et puis aussi, tout récemment, on m'a appelé du Maroc en disant que le roi souhaitait que, pour recevoir le pape, je dirige l'Orchestre Philharmonique du Maroc, où nous avions un imam, une chanteuse juive, une chanteuse chrétienne, c'était ma fille, Caroline, le pape et le roi derrière nous, 2000 personnes de confessions différentes, pour l'Ave Maria de Caccini, c'était au mois de mars l'année dernière, et c'était un moment d'émotion, mais exceptionnel. On a l'impression tout d'un coup de participer à un grand dessein idéaliste, la réunion des hommes à travers la tolérance qu'impose la différence. On s'enrichit de la différence. Malheureusement, on vit dans un monde intolérant. Donc je crois qu'il faut lutter pour que, dans le respect mutuel, et la musique, c'est la première valeur que l'on lit dans le Lavignac, qui est un livre, hein, la musique, c'est le respect des valeurs. Et philosophiquement, ça veut dire quelque chose. Une croche n'est pas une double croche, un triolet n'est pas un quintolet, etc. Il faut être respectueux de ce qui n'est pas forcément votre système de pensée. À partir du moment où chacun respecte la laïcité, le respect des croyances, et leur mélange me paraît riche de possibilités.
Voilà, autant de valeurs que vous avez pu transmettre grâce à la musique et que vous allez continuer à transmettre, Jean-Claude Casadesus, puisque vos activités continuent, la passion est toujours aussi ardente et j'en profite pour vous souhaiter un très bel anniversaire.
En tout cas, c'est adorable de m'avoir accueilli une fois de plus parce que nous avons une longue complicité artistique ensemble. Et bravo à Radio Classique et merci pour tout le travail que vous accomplissez et vraiment de cet éclairage qui, grâce à vos talents multiples, parce que vous avez des preneurs de son formidables chez vous et que je salue, qui ont contribué à transmettre l'émotion qui est notre humus.
Tout début du poème symphonique Une vie de héros de Richard Strauss par Jean-Claude Casadesus et l'Orchestre National de Lille. Jean-Claude Casadesus, 85 ans aujourd'hui, un nouvel enregistrement du Chant de la Terre avec l'Orchestre National de Lille et de nombreux concerts à la rentrée. Il sera ainsi à la Philharmonie de Paris le 18 janvier avec l'Orchestre du Conservatoire de Paris et le pianiste David Kadouch. Et puis il partira pour les Canaries, donnera des concerts à Moscou, au Japon ou encore en Chine. sans oublier ses prochains rendez-vous avec l'Orchestre National de Lille au mois d'avril et au mois de juin. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Arnaud Torrette qui nous présentera son tout nouveau conte musical. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique.